Sébastien Faour pour l'info. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir à tous. Qui au poste clé à Bruxelles? Quelle suite pour les partis en déroute hier? LR, Insoumis et PS, lendemain d'Européenne sur fond vert. Les Républicains en bureau politique en ce moment, certains veulent la tête de Laurent Wauquiez. Emmanuel Macron reçoit et consulte pour placer ses pions. Nous sommes aussi à Madrid, à Athènes. On dessine la carte de France des votes et téléphone sonne spécial Fabienne.
Absolument, maintenant qu'on a tout analysé, expliqué, tenté de montrer à quoi ressemble le Parlement européen, où sont ses influences, à vous de poser les questions que vous voulez. Est-ce que l'Europe aura plus de poids selon vous? Est-ce que ce fractionnement du Parlement est une bonne ou une mauvaise nouvelle? Quelle place pour la France au milieu de tout cela? Quel poids pour les extrêmes? Vos questions comme d'habitude, 01 45 24 7000.
Un match à deux comme à la présidentielle. Emmanuel Macron, Marine Le Pen et les deux partis de l'ancien monde, LR et PS, qui regardent leur score tomber. Voilà comment on peut résumer les européennes d'hier. Vue de France, avec la surprise écolo sur la troisième match du podium, la troisième marche du podium. Un peu plus de 200 000 voix d'avance pour le Rassemblement National sur La République En Marche, qui envoie 22 et 21 députés à Strasbourg. Pire score pour le PS à des européennes, qui n'aura que 5 élus. Et pire score pour la droite de gouvernement de son histoire, tout scrutin confondu, 6 sièges. Les Républicains sont en bureau politique exceptionnel depuis une heure, on y va dans un instant. D'abord le maire LR de Caen, Joël Bruneau, qui vise clairement le président Laurent Wauquiez.
En ce qui concerne ma famille politique, j'ai jamais fait mystère du fait que j'étais extrêmement circonspect, pour pas dire plus, sur la ligne qui avait été proposée par les dirigeants actuels. Bon, je crois que des conclusions doivent en être tirées. Hein. L'histoire de la droite à laquelle j'appartiens, c'est l'histoire d'une droite modérée qui associe différentes familles et qui ne se recroqueville pas sur une, comme aurait dit le général de Gaulle, un carteron de personnes. Et je répète, soit nous revenons à ce qui en constitue l'ADN, en quelque sorte, originel, c'est-à-dire le rassemblement de la droite et du centre, soit c'est une famille qui est en partie condamnée.
Le point de vue de Joël Bruneau, ici au micro de Carole Louis, est-il partagé au sein des Républicains? Bonsoir Maxence Lambrecq.
Bonsoir.
Depuis le siège parisien des LR, où depuis une heure, donc Laurent Wauquiez répond aux attaques sans rien lâcher.
Eh oui, bureau politique très tendu en ce moment avec un Laurent Wauquiez qui joue la carte de la modestie et promet, je cite, de tout remettre à plat sur les valeurs, le projet, le fonctionnement, la stratégie d'alliance. Il fait face à Valérie Pécresse qui demande sa tête sans le formuler ainsi, et cela rappelle des souvenirs à Jean-François Copé et à l'ancienne filloniste Florence Portelli.
Moi j'ai pris en d'autres temps mes responsabilités, vous le savez, j'avais été mis en cause. François Fillon, pendant la présidentielle, ne l'a pas fait. Nous sommes tous partis en haut de la falaise des Tretas pour tous tomber ensemble. Je vois aujourd'hui le même processus se mettre en place.
Quand on prend une telle rouste, on en tire les conséquences. Et d'ailleurs, Nicolas Sarkozy en 99 l'avait fait alors que c'était une claque moins importante. Et il était parti pour que la droite puisse se relancer et ça avait marché.
Il reste assez peu nombreux à réclamer sa démission ce soir au sein de ce bureau politique que Laurent Wauquiez a verrouillé dès son arrivée. Et en plus, le président du Sénat, Gérard Larcher, et son collègue Bruno Retailleau sont absents. Les loyalistes sont donc majoritaires, à l'image de Christian Jacob, patron de la droite à l'Assemblée, et Claude Goasguen, député de Paris.
J'ai vraiment pas le sentiment que notre électorat ait envie à tout prix d'une élection interne et puis d'une nouvelle bagarre de chef, et puis que tout aille mieux. C'est pas comme ça.
C'est un problème de ligne politique, c'est trop facile d'accuser les personnes. La ligne politique est mauvaise, il faut la rectifier. Nos électeurs nous ont quittés parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi on attaque avec tellement de force Macron.
Faut-il être moins offensif à l'égard du président, moins conservateur, plus libéral? Laurent Wauquiez essaie de s'en sortir en promettant ce soir des états généraux de la droite à la rentrée de septembre. Pas sûr que cela apaise la colère des jeunes députés qui comptent se faire entendre demain matin lors de la réunion de groupe à l'Assemblée.
Maxence Lambrecq, on suivra ça. Merci, en direct du siège des Républicains rue de Vaugirard à Paris avec Jérémy Thuil. La liste de la majorité laisse le meilleur score à celle de Jordan Bardella, mais pour Nathalie Loiseau, il n'y a ni victoire, ni déroute, ni défaite. Et la suite est prise en main par l'exécutif. Bonsoir Karine Bécard.
Bonsoir.
Bilan et perspective ce midi autour d'Emmanuel Macron et d'Edouard Philippe pour essayer d'avoir les meilleures places à Bruxelles.
Exactement. À cette séance de travail ce midi à l'Élysée, sont présents les deux têtes de l'exécutif, effectivement. Nathalie Loiseau et Pascal Canfin, désormais députés macronistes européens. François Bayrou est là également, tout comme Marielle de Sarnez, qui a passé, il faut le rappeler, 17 ans au Parlement européen. Et puis, la majorité est représentée par le président de l'Assemblée, Richard Ferrand, et par le patron du parti, Stanislas Guérini. Parce que l'objectif désormais d'Emmanuel Macron, avec ses 21 eurodéputés, c'est de réussir à peser sur la politique européenne. Comment? Eh bien, Nathalie Loiseau, par exemple, est déjà à Bruxelles cet après-midi pour commencer à se positionner sur la présidence de certaines commissions au sein du Parlement européen, des commissions qu'Emmanuel Macron juge stratégiques pour faire avancer ses dossiers. Et puis à elle également de manœuvrer pour la présidence du futur groupe central que le président français, là aussi, aimerait bien décrocher. Et ce n'est pas tout. Quels seront par ailleurs les alliés de ce futur groupe central ? Emmanuel Macron est persuadé de pouvoir récupérer une vingtaine, peut-être une trentaine de députés PPE, c'est-à-dire de la droite modérée. Pour cela, il faut aller les sonder. La consigne a d'ores et déjà été donnée. Autre sujet capital, qui, pour présider la Commission européenne, la discussion qu'il a eue hier soir avec la chancelière allemande Angela Merkel a duré plus d'une heure et demie parce qu'elle soutient la candidature du Bavarois, Manfred Weber de la CSU, alors que les macronistes ont pour mission de tout faire pour le débrancher. Sans oublier le poste de commissaire qui doit revenir aux Français. À l'Élysée, on se bat pour le portefeuille de l'énergie et celui du climat. Bref, beaucoup de batailles à mener qu'il faut forcément organiser pour espérer les gagner.
Emmanuel Macron est donc sur le pont avant le sommet de demain à Bruxelles. Merci Karine. Des entretiens encore avec Angela Merkel et Donald Tusk sont prévus, après d'autres déjà avec le néerlandais Rutte, le portugais Costa. Et ce soir, dîner à l'Élysée avec le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez. Pas du même bord, mais tout aussi européen que lui. Bonsoir Julie Pietri.
Bonsoir.
Vous êtes à Madrid, Julie. Pedro Sanchez, large vainqueur hier en Espagne avec près de 33% des voix et qui se retrouve en position de force chez les sociaux-démocrates européens.
Pedro Sanchez, qui a des airs de phénix quand les socialistes espagnols s'écroulent en 2016, c'est lui le chef du parti. Il est tenu pour responsable, il est écarté. Mais l'économiste de 47 ans récupère le parti en perdition un an plus tard. Il profite d'un gigantesque scandale de corruption qui éclabousse la droite pour faire chuter le gouvernement Rajoy. Il est depuis au pouvoir sans majorité et est devenu le héros de Maria, retraitée militante socialiste.
Pedro, personne ne croyait en lui. Pedro et son gouvernement, ils dialoguent, ils parlent. C'est un homme honnête, une bouffée d'air frais. Il est compétent et travailleur. Moi, j'aime Pedro.
Aujourd'hui, Pedro Sanchez mène sa barque à gauche. SMIC en hausse de 22%, accès aux soins publics pour les sans-papiers. Extrait de son discours hier aux Espagnols.
Au sein des institutions européennes, nous serons la première délégation social-démocrate. Pour nous, c'est une fierté, mais c'est aussi une grande responsabilité. La responsabilité de construire une alternative progressiste de gauche aux politiques dont ont souffert les Espagnols durant la crise économique et financière. Coupes budgétaires, inégalités et exclusion sociale.
Mais s'ils adhèrent au discours, les militants comme Jeremia ne lui signent pas tous un chèque en blanc.
Si le parti ne va pas vers plus de justice sociale pendant le mandat de Pedro Sanchez, il sortira.
Ce soir, le chef du gouvernement espagnol est donc à Paris, vous l'avez dit, à la table d'Emmanuel Macron. Il présentera sans doute ses ambitions européennes.
Julie Pietri, merci, en direct de Madrid avec Romain Luquiens. Manuel Valls termine, lui, quatrième au municipal à Barcelone. Mais l'engagement de l'ancien Premier ministre français pour sa ville natale continue, dit-il. Sanchez l'emporte en Espagne. Syriza s'écroule en Grèce, 9,5 derrière les conservateurs. Alexis Tsipras, qui dirige l'un des rares gouvernements de gauche en Europe, tente un coup de poker. Angélique Kourounis, il convoque des législatives anticipées dans un mois.
Le visage fermé, Alexis Tsipras a demandé aux Grecs de se prononcer en juin prochain pour savoir si oui ou non ils veulent continuer, je cite, le retour vers la croissance et la prospérité ou s'ils préfèrent la politique néolibérale de son rival, grand vainqueur des triples élections de ce dimanche, européenne, municipale et régionale. Avec juste 25% des voix contre 33 pour les conservateurs libéraux, Alexis Tsipras paie ses nombreuses trahisons envers son électorat de gauche, l'accord avec la Macédoine du Nord sur sa droite, alors que la classe moyenne, laminé par la crise, oublié dans les récentes mesures qu'il a prises, l'a de son côté sanctionné lourdement. Avec ses élections anticipées, il tente un va-tout politique, misant sur l'idée que les législatives sont d'une toute autre importance que les européennes ou les élections locales. Il n'empêche, avec une extrême droite tout parti confondu en hausse, bien que le parti néo-nazi grec Obdoré a baissé de moitié, la Grèce a opéré hier un sérieux virage à droite. Pas sûr qu'Alexis Tsipras pourra redresser la barre en sa faveur.
Angélique Kourounis à Athènes pour Inter. Vous trouverez sur franceinter.fr tous les éclairages sur le scrutin pays par pays. Par exemple, le succès des Grünen en Allemagne, les Verts. Et puis en Autriche, le chancelier Sébastien Kurz est renversé par une motion de censure après le scandale qui a fait exploser la coalition qu'il avait formée avec l'extrême droite du FPE.
Et en France, Sébastien, la surprise vient donc des Verts.
Europe Écologie, les Verts sur le podium avec 13,5% des voix, 12 eurodéputés, meilleur score écolo depuis Daniel Cohn-Bendit. Il y a 10 ans, Yannick Jadot parle de vague verte européenne. Une vague verte qui a même déferlé sur des villages peu sensibles jusqu'ici aux questions écologiques, comme Le Palais, dans le Vignoble près de Nantes, commune rurale de 3500 habitants. Europe Écologie l'emporte avec 23,6% des voix. C'est une première. Grégory Julien est allé sur place.
Ici, pratiquement aucun paleté n'est surpris par cette vague verte.
On devient de plus en plus écolo, donc pour moi c'est logique.
C'est la bobocratie.
On passe des votes qui étaient plutôt droite conservatrice, des choses plus écolo, ça me paraît normal.
Et certaines assument même pleinement ce vote.
Moi j'ai voté écologique, oui, parce que je crois qu'on a besoin d'écologie un peu plus pour les pesticides, pour les glyphosates, pour qu'ils prennent des vraies mesures.
Alors pour expliquer cette percée des écolos au palais, certaines comme Chloé évoque la sociologie des habitants.
Beaucoup de trentenaires qui arrivent pour habiter au palais parce qu'à Nantes, ils ne peuvent pas acheter une maison. Ils ont déjà une conscience écologique depuis maintenant quelques décennies quand même. Ça change un peu au palais.
Un changement d'habitude qui se voit, selon Roger, paleté depuis toujours.
C'est des gens qui utilisent les transports collectifs, les constructions sont en bois, etc. Enfin, il y a plein de choses qui se passent sur le palais.
Et les viticulteurs ont aussi modifié leur comportement ces dernières années. Près de la moitié se sont convertis à l'agriculture bio ou raisonnée. Le maire du palais, Pierre André Perouin.
C'est pas un effet de mode. Je pense que ceux qui le font parce qu'ils sont conscients que il faut faire autrement et qu'il faut revenir plutôt à des valeurs anciennes.
Épreuve que l'écologie est bien implantée au palais, la fête de l'école sera pour la première fois cette année éco-citoyenne.
Les Insoumis auront 6 eurodéputés à Strasbourg. Le fondateur de Génération, Benoît Hamon, seulement 3,27% hier, annonce qu'il prend du recul après ses échecs à la présidentielle et aux européennes. Bonsoir Yael Gauze.
Bonsoir Sébastien.
Voilà les résultats. Dites-nous maintenant qui vote, quoi et où la cartographie de ce vote.
Alors c'est de la radio, mais on va essayer de rendre ça le plus visuel possible. Vous prenez l'hexagone, vous coloriez le Grand Ouest, une partie du Sud-Ouest, des Landes aux Hautes-Pyrénées, le sud du Massif Central, un flanc Est qui va du Doubs à l'Isère, et puis toute l'île de France sans la Seine-et-Marne. Et vous avez là l'espace minoritaire, 20 départements en tout, où La République En Marche est arrivée en tête. Partout ailleurs, c'est-à-dire sur les trois quarts du pays, c'est dominante RN, le Nord, le Grand Est, excepté le Bas-Rhin, le Sud-Est et de nombreux départements du Centre. Si on prend les villes maintenant, le Rassemblement National surclasse la REM à Toulon, à Perpignan, à Nice ou à Marseille. A contrario, la REM s'impose dans de grands fiefs historiques de la droite, comme Versailles, Neuilly et même le 16e arrondissement de Paris. Et c'est bien la preuve qu'il y a eu transfert de voix de la droite vers la REM. À Paris, Nantes, Rennes, Grenoble, Bordeaux et Toulouse, les écolos sont juste derrière, au-dessus des 20%. Une cartographie qui illustre une fois de plus le fossé sociologique entre ville et périphérie. À noter enfin dans les Outre-mer, le quasi grand chelem de la liste de Jordan Bardella dans 8 territoires sur 11. Énorme score à Mayotte avec plus de 45% des voix.
Les cartes sont sur franceinter.fr pour ceux qui n'ont pas suivi éventuellement votre description, mais ce n'est pas notre cas évidemment.
C'est un peu de la météo. Hein.
Tout à fait. Comme tous les résultats qui pourraient vous intéresser. Et puis le téléphone sonne est aussi très européen ce soir, Fabienne.
Absolument, au 01 45 24. 7000. Toutes les questions que vous avez autour de ce Parlement européen, elles sont pour vous, allez-y, ce soir. À 19h13, d'un côté, Sébastien, Renault, 183 000 salariés.
Et plus de 57 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et de l'autre, Fiat, Chrysler, 199 000 employés, un chiffre d'affaires de 110 milliards d'euros. Le mariage des deux en ferait le troisième constructeur mondial de voitures, derrière Volkswagen et Toyota, 8 700 000 ventes chaque année. Fiat, Chrysler propose une fusion à 50-50 au Los Angeles, qui dit étudier cette proposition avec intérêt, malgré son alliance avec Nissan. Le gouvernement n'y est pas hostile, les actions des deux groupes grimpent. Et en Italie, Olivier Tosseri, eh bien le vice-premier ministre Matteo Salvini, grand vainqueur des européennes avec la Ligue hier, parle déjà d'une opération brillante.
Souverainisme économique ou sauvetage des emplois en Italie grâce à une entreprise étrangère? Face à ce dilemme, Matteo Salvini a choisi. Il salue le rapprochement en cours entre le groupe franco-nippon Renault-Nissan et le groupe italo-américain Fiat-Chrysler. Le leader de la Ligue et l'homme fort du gouvernement italien, malgré sa francophobie affichée, ne s'oppose pas à un futur accord.
Si Fiat grandit, c'est une bonne nouvelle pour l'Italie et pour les Italiens. J'espère qu'il s'agit d'une opération qui sera brillante et qui garantira l'avenir de l'entreprise ainsi que les emplois dans notre pays en donnant naissance à un géant européen de l'automobile. Espérons que l'accord aboutisse et permette de garantir la croissance d'un secteur déterminant pour notre pays.
La presse transalpine suit avec autant d'intérêt et accueille favorablement un accord qui ferait naître un colosse mondial du secteur automobile et relancerait surtout un groupe Fiat qui accuse un fort ralentissement de ses ventes après la disparition de son emblématique patron, Sergio Marchionne. Rome, Olivier Tosseri, France Inter.
Et la CGT veut de son côté que l'État français garde une minorité de blocage pour faire prévaloir, dit-elle, les intérêts tricolores. Il est présenté comme l'auteur présumé de l'attentat au colis piégé vendredi dernier à Lyon, l'explosion d'un sac devant une boulangerie qui a fait 13 blessés légers. Un homme de 24 ans a été arrêté ce matin dans le 7e arrondissement. Bonsoir Laurélie Carrive.
Bonsoir.
Ses parents et un frère sont également en garde à vue.
Et c'est grâce à un minutieux travail sur les images de vidéosurveillance que les policiers sont remontés jusqu'au suspect, un étudiant en informatique de nationalité algérienne. D'après nos informations, pour le localiser plus précisément encore, ils se sont appuyés sur les commandes passées par le jeune homme sur Internet, puisqu'il se serait fait livrer chez lui du matériel, sans doute celui utilisé pour confectionner le colis piégé déposé vendredi en fin d'après-midi rue Victor Hugo à Lyon. Pour autant, les policiers n'ont pas voulu l'interpeller à son domicile par peur de tomber sur des explosifs. C'est donc alors que l'étudiant descendait du bus quartier Gerland à 10h ce matin qu'il a été arrêté, il n'a pas opposé de résistance. Une perquisition a eu lieu juste après dans son appartement situé à Oullins, une commune située juste au sud de Lyon. Ses parents, son petit frère, lycéen, ont eux aussi été placés en garde à vue. Les enquêteurs cherchent à savoir si le suspect a agi seul ou s'il a pu être aidé. À ce stade, ses motivations restent toujours inconnues, rien n'est établi. Il n'y a pas de certitude, a insisté il y a quelques minutes le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner lors d'un point presse.
C'est la loi en Irak, mais elle embarrasse la France. Ceux qui rejoignent une organisation terroriste, comme combattants ou non, risquent la peine de mort. Ils sont désormais 4 Français condamnés à la peine capitale à Bagdad pour appartenance au groupe État islamique. Mais d'autres, Olivier Poujade, pourraient s'ajouter à la liste dans les prochains jours.
Ils sont 12 au total à avoir été transférés en février dernier d'un camp de prisonniers contrôlé par des combattants kurdes au nord-est de la Syrie vers la prison de Bagdad en Irak pour être traduits en justice. Une justice irakienne sans concession vis-à-vis des anciens soldats de Daesh. Les interrogatoires des prévenus se font en prison. Les procès sont expédiés en 15-30 minutes. Ce matin, celui de Mustapha Merzougi, un ancien militaire de carrière, a duré près de 2 heures, mais la sentence est la même, la peine de mort par pendaison. Ces 4 décisions de justice place la diplomatie française dans une position inconfortable entre son opposition de principe à la peine de mort et le choix du gouvernement il y a 3 mois de livrer ses ressortissants aux autorités irakiennes. Dans son communiqué, le Quai d'Orsay dit respecter la souveraineté juridique de l'Irak tout en signalant que des démarches sont menées pour rappeler à l'Irak que la France rejette toute condamnation à mort. Comprendre en clair que l'État français ne conteste pas ses verdicts mais s'engage à agir pour que l'exécution de ces condamnés à mort n'ait jamais lieu.
Et on reparlera de ce dossier demain avec le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, qui est invité sur Inter à 8h20.
La France peut-elle être zen en 2050?
Zen comme zéro émission nette de carbone, autrement dit plus propre et moins polluante. C'est tout à fait possible, disent les entreprises dans une étude publiée aujourd'hui. Bonsoir Célia Kiyrène.
Bonsoir Sébastien.
Elles sont même assez optimistes, ces entreprises. On peut concilier transition écologique et croissance économique.
Oui, pas besoin de revenir à la préhistoire ou même à la bougie. Selon cette étude des entreprises pour l'environnement, la France pourra réduire ses émissions de gaz à effet de serre en maintenant une croissance autour de 1%. Parmi les propositions, rendre obligatoire la rénovation énergétique des bâtiments ou encore supprimer totalement les voitures essence et diesel bien avant 2050. Il faudra que la France diminue ses émissions de plus de 4% par an, c'est 8 fois plus qu'aujourd'hui. Cela induit donc des changements sans précédent, mais pas de décroissance, selon David Laurent, l'un des responsables de cette étude.
Les modes de vie sont attractifs, mais également l'économie, la société. C'est pas quelque chose où on revient à un habitat troglodyte. C'est vraiment des modes de vie qui sont agréable, attractif et où on voit qu'on gagne sur le point économique, mais également sur la qualité de vie individuelle. Mais évidemment, il y a un niveau de croissance où quand même, plus on va consommer, plus on va émettre. Donc il y a des réflexions de fond sur ces modes de consommation.
Des transports doux, des centres-villes attractifs, moins de béton, pas de gros centres commerciaux. Ces propositions sont très positives pour Anne Bringot du réseau Action Climat, mais ces grandes entreprises qui représentent la moitié du CAC 40 auraient pu aller encore plus loin.
Sur la mobilité, l'étude prévoit une hausse du trafic, plus de voyageurs, plus de marchandises qui vont continuer à circuler. Or, on pourrait réduire la mobilité en développant le télétravail, par exemple, en consommant plus local. Et là, on aurait des marges de manœuvre supérieures pour éviter de continuer à polluer.
Et cette étude ne parle pas de sobriété énergétique. Une France neutre en carbone, ce n'est pas une France qui n'émet plus de CO2 du tout. Elle peut en produire tant que les forêts peuvent l'absorber. Ces puits de carbone sont une condition sine qua non. Attention donc à préserver la nature, sinon le modèle s'effondre.
Célia Kiré, on termine avec la deuxième journée à Roland-Garros. Il y avait du bon niveau sur les courts. Bonsoir Fabrice Abgral.
Bonsoir.
Et ça passe sans problème pour Nadal et Djokovic.
Ouais, les deux grands favoris du tournoi, Novak Djokovic, le numéro 1 mondial, tombeur sans trembler du Polonais Hubert Hurkacz en 3-7 et simple formalité également pour Rafael Nadal, le numéro 2, 11 fois vainqueur ici, porte d'Auteuil. Lui, il a surclassé l'Allemand Yannick Hoffmann, 184e mondial, là aussi en 3-7. Une bonne mise en route à la fois pour Djokovic et à la fois pour Rafael Nadal.
Côté français, Fabrice, c'est bon pour Tsonga, Simon et Gasquet, sans oublier deux exploits dont celui d'une jeune joueuse de 16 ans.
Diane Parry, 457e joueuse mondiale. Elle est junior, tout simplement, Diane Parry. Et bien, elle a réussi l'exploit, en effet, de sortir la Bélarusse Vera Lapchenko, 101e mondiale, en 2-7, 6-2, 6-4. Diane Parry n'est âgée que de 16 ans et 9 mois. Et c'est important parce qu'elle est tout simplement la plus jeune joueuse à remporter un match à Roland-Garros depuis 10 ans. Et puis, il y a un autre exploit, celui de Pierre Hugarbert, qui lui a éliminé le 14e mondial, le russe Danil Medvedev, en 5-7, alors qu'il était mené 2-7-0. Il y aura forcément un Français au troisième tour puisque Pierre Hugarbert affrontera au deuxième un certain Benoît Paire, l'Avignonnais, qui vient de sortir vainqueur du match qui l'opposait au Roumain Marius Copil.
Fabrice Abgral, porte d'Auteuil. À demain, Fabrice. Et puis, on a appris cet après-midi la mort de l'académicien François Weyerganz. Prix Renaudot en 92 pour la démence du boxeur. Prix Goncourt en 2005 pour 3 jours chez ma mère. Il avait 77 ans et France Inter rediffuse son entretien avec Laura Adler dans l'heure bleue tout à l'heure à 20h.
Merci beaucoup Sébastien, on se retrouve demain. Nous, on reste ensemble pour Le Téléphone Sonne. Merci de passer la soirée avec nous.
La météo avec Air France. Et la France est plus proche. Envolez-vous du nord au sud et de l'est à l'ouest en moins de 2 heures. Rendez-vous sur airfrance.fr.
Et Jean-Pierre Hamon, un petit coup de frais et des averses, dites-moi, pour demain.
Oui, effectivement, ce sera la journée la plus fraîche et la plus agitée de la semaine, avec au menu de nombreuses averses, voire des orages du nord à la région parisienne dès le matin. Ces orages vont s'étendre à la région centre, puis vers le nord-est et l'est en cours d'après-midi. Et si vous voulez du soleil, un rendez-vous vers le Finistère, le Cotentin, ou encore vers le Languedoc-Roussillon et la basse vallée du Rhône. Et puis côté température, nous serons sous l'influence d'une masse d'air venant du nord. Les maximales seront fraîches pour la saison, généralement comprises entre 15 et 19 degrés, comptez quand même 21 à 25 degrés près de la Méditerranée.
Et sinon, la chaleur, c'est pour quand?
Pas tout de suite, hein, sera encore un peu frais mercredi. Le mercure va remonter progressivement jeudi et vendredi pour finir en apothéose ce week-end avec des valeurs estivales. Les premiers 30 degrés seront d'ailleurs atteints dans le sud-ouest, par exemple.
Allez, ça y est, on y est. Merci beaucoup Jean-Pierre Hamon de Météo France sur France.